ce matin sur Internet. Il y en a tellement long que je vais être obligé de résumer.
Heureusement.
Alors, Jean Thévenot, ici présent, a une particularité, c'est qu'il est un vieux routier de Lyon 93, et depuis quelque temps, il est administrateur. C'est d'ailleurs marqué dans Internet.
Sur Wikipédia.
Et sur Wikipédia et partout. Alors, Jean Thévenot, il est docteur en histoire, diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon, et il a effectué une carrière de journaliste à différents journaux. Maintenant, il a évolué et il a participé au comité de rédaction du Souvenir napoléonien, un grand spécialiste de la Lyon. Il est également, depuis 2002, président de la CELIR, qui est une société des écrivains et du livre lyonnais. Il est également président de l'Académie du Merle Blanc, qui est une académie de gens qui se réunissent tous les 15 jours pour
étudier les sujets. Je ne sais pas comment ils enregistrent, il fait déjà une minute de parole.
Non. Alors, je ne sais pas comment faire, parce que toi, il faut que tu parles encore plus fort que moi.
Oui, mais il parle très fort.
Il parle. Je recommence tout ?
Non.
Et ça, du fond,
c'est incroyable, ce micro, ça tient très
bien. C'est choquant, non ?
Oui, c'est choquant.
Il ne marche pas. Les garanties par l'armée certifiées ne marchent pas. Donc, il faut parler plus fort. Alors, je parle plus fort, je monte un cran. Et toi, il va falloir que tu tiennes le coup. Au moins qu'on avance encore le...
Non.
Bon, donc Jean Thévenot, je vous l'ai présenté rapidement. Il est donc président de tout un tas de belles choses et il va vous parler de la immigration. Et je lui donne la parole tout de suite.
Bien, le point de départ de mon intervention, c'est la publication, il y a 2 ans, d'un petit livre au format poche qui s'intitule « Une famille noble sous la terreur ». Je me procure ce livre en me disant « Tiens, je vais en apprendre un peu plus sur la Révolution ». Et, stupéfaction, je m'aperçois que la plus grande partie se déroule à Lyon. Et donc, je vais vous parler de l'auteur de ce livre qui s'appelait Alexandrine des Échrolles. Et plus exactement, pour donner son nom complet, Alexandrine Giraud des Échrolles, qui a la particularité d'avoir eu son père parmi les chefs militaires de la révolte lyonnaise de 1793, d'avoir eu sa tante guillotinée à la suite de cette révolte, et d'avoir ensuite elle-même raconté en tant que mémorialiste ce qu'elle avait vu. Alors c'est un texte très intéressant qui a connu 2 éditions au XIXe siècle, des éditions qui ont été plus ou moins remarquées, mais après, il faut bien dire une chose, c'était tombé dans l'oubli. Et la tendance naturelle serait de dire, bon, bah, évidemment, cette femme qui a écrit plusieurs dizaines d'années après les événements, ça ne vaut peut-être pas grand-chose, elle doit enjoliver. En réalité, non. Alors, bien entendu, une mémoire est toujours défaillante. Hein, lorsqu'on se raconte soi-même, on commet involontairement des erreurs. Mais il s'agit en fait d'un témoignage de première main, et je suis très heureux que le livre ait été réédité donc dans le cadre de cette collection des éditions Mercure de France, qui publie, cette collection publie justement des ouvrages de mémoire du 18e et du 19e siècle qui permettent de comprendre la vie politique, la vie sociale, la vie mondaine de ces époques.
Non, rien.
Alexandrine Giraud des Échrolles appartient à une famille du Bourbonnais. Alors, le Bourbonnais doit être cher à certains d'entre vous.
Oui, oui.
Hein? Et je dirais que c'est peut-être pas tout à fait un hasard, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a d'autres personnes qui sont venues du Bourbonnais à Lyon à cette époque. Cette famille a pris le nom des Échrolles, c'était la famille Giraud, elle a pris le nom des Échrolles au début du XVIIIe siècle et elle a été reconnue noble par lettre patente en 1770, lettre patente enregistrée comme il se doit l'année suivante. Mais, comme le dit très bien le texte des lettres patentes, c'était une famille qui, depuis longtemps, a vécu noblement. Ça, c'est une expression typique du XVIIIe siècle et qui consiste à dire, avec quelques fioritures, qu'une famille, une maison, était déjà assez proche de la noblesse. D'ailleurs, la famille Giraud des Échrolles avait contracté beaucoup d'alliances avec des familles estampillées officiellement nobles depuis longtemps. C'est une famille qui remonte assez loin, une famille de vieille bourgeoisie, une famille qui a été alliée à beaucoup d'autres donc de cette région du Bourbonnais. Et en réalité, on peut dire que les lettres patentes n'ont fait qu'officialiser une situation qui existait déjà dans les faits. Il faut en effet que nous n'ayons, que nous ayons à l'esprit que la noblesse au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est en réalité quelque chose de compliqué. Et on sait très bien d'ailleurs qu'il y a des familles qui ont été reconnues nobles à plusieurs reprises successivement, pour diverses raisons, et entre autres parce que l'État, depuis Louis XIV, avait trouvé que c'était un excellent moyen de déclarer qu'il fallait reconnaître les familles, parce qu'évidemment, ça exigeait une redevance, et ça entrait dans la caisse de l'État. Donc, des gens qui étaient, depuis plus ou moins longtemps, déjà considérés comme nobles, eh bien, on leur dit, ah ben maintenant, il faut que ce soit reconnu officiellement, on va vous faire des lettres battantes. C'est pour ça que je parle plutôt d'une officialisation. Et encore, pour la famille Giraud des Escherolles, il y a eu une seule officialisation, alors qu'on connaît des familles qui, au XVIIe, sous Louis XIV, sous Louis XV et sous Louis XVI, ont dû se faire officialiser à plusieurs reprises, tout ça étant, il faut bien le dire, une question de gros sous au profit de l'État. L'anoblissement qui est opéré au profit de la famille touche celui qui s'appelle Étienne François Giraud des Escherolles, qui est né en 1731 et qui va naître en 1810, et dont je précise tout de suite qu'il s'agit du père de notre héroïne. Cet Étienne François, il a eu la carrière militaire de beaucoup de nobles de cette époque, avec peut-être une différence, c'est que lui, il a commencé à l'âge de 9 ans. Il a commencé à l'âge de 9 ans sur les instances de son père qui était militaire, son grand-père était aussi militaire. Donc on voit très bien d'ailleurs comment cette famille est passée, pour simplifier, de la bourgeoisie d'Europe à la noblesse certifiée d'une manière militaire par un certain nombre d'États successifs. Et Étienne François Giraud des Escherolles a été notamment maréchal de camp. Il sera d'ailleurs souvent désigné à cette époque, y compris sous la Révolution, quoique le titre soit remplacé par celui de général de brigade. Ça fait partie des réformes du statut militaire qui ont été opérées par la Révolution dès 1790-91. Il a été inspecteur des haras du Bourbonnais. Il était titulaire de la Croix de Saint-Louis, il a été blessé à de nombreuses reprises, etc. Et notre Étienne François va devenir, mais rien ne l'y prédisposait, va devenir un des acteurs de la révolte de Lyon. Et d'une manière finalement assez curieuse, parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, il va aller se réfugier à Lyon. Je dis que c'est surprenant, parce que venir se réfugier à Lyon pour y trouver la sécurité, alors que la ville va se trouver sous la pression et les bombardements de la Convention montagnarde, ça peut sembler curieux. Mais n'oublions pas que nous sommes dans une période de changements incessants. Nous sommes en pleine révolution. Et d'ailleurs, sa fille, puisque sa fille va raconter tout cela dans le petit livre que je vous ai rapidement présenté, sa fille l'explique très bien. Que s'est-il passé? Il s'est passé, au fond, ce qu'ont dû connaître beaucoup de gens qui exerçaient des responsabilités au début de la Révolution. C'est-à-dire que, finalement, Étienne François, c'était un personnage parmi les notables de la ville de Moulins. Le château des Escherolles, en effet, ne se trouve pas très très loin. Et la famille tenait une certaine place à Moulins. Et comme elle tenait une certaine place, au début de la Révolution, les habitants de Moulins se sont tournés vers Étienne François Giraud des Escherolles pour lui demander de prendre en main la garde nationale qui était faite à ce moment-là. Hein, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'au début de la Révolution, il y a eu une opposition immédiate et systématique entre d'un côté les tenants traditionnels du pouvoir et puis ceux qui commençaient, grâce à la Révolution, à arriver sur le devant de la scène. Dans un premier temps, il est naturel de se tourner vers les responsables que l'on connaît. Et c'est ainsi qu'il devient le major de la garde nationale de Moulins. Ça ne lui plaît pas beaucoup. Il refuse, mais ses concitoyens le poussent et il accepte. Il accepte bon, tout simplement par sens du devoir. Bon, ben, il comprend que, au fond, c'est normal qu'il exerce une responsabilité, en plus appelée par le vœu de ses concitoyens. Et c'est d'ailleurs à ce titre que le 14 juillet 1790, il est envoyé à Paris à la fête de la Fédération comme délégué, on disait député, mais je n'emploie pas le mot député afin de ne pas confondre avec les députés de l'Assemblée nationale, comme délégué justement de l'Allier. Il va à Paris, bon, rien de bien notable. On a dit après, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est exact, il faut toujours se méfier hein, des commentaires ultérieurs. On a dit qu'il avait eu l'idée de pousser Louis XVI à prendre le pouvoir en éliminant l'Assemblée nationale. Ça me semble un peu douteux, c'est pas totalement impossible. En tout cas, le fait qu'on l'ait dit montre qu'au moins à partir d'un certain temps, il va y avoir des personnes qui vont considérer Étienne François du Rôle des Escrolles comme quelqu'un qui se situe, pour employer le vocabulaire simplifié de ce moment, contre le peuple. Et il se situe d'autant plus contre le peuple qu'il y a une petite histoire qui se produit, qui a dû arriver à beaucoup d'autres responsables politiques de l'époque, c'est qu'à un moment, il protège quelqu'un, un marchand, qui est accusé de tous les maux, c'est-à-dire qu'à cette époque, hein, les marchands, surtout quand ce sont des marchands, on dirait aujourd'hui du secteur agroalimentaire, marchand de grains, hein, si vous préférez, eh bien, le marchand est un affameur, hein, c'est quelqu'un qui refuse hein, de vendre et de donner du blé et d'autres grains à la population. Alors il le protège et on va l'en tirer rigueur. On va l'en tirer rigueur et il va se retrouver en prison. Il se retrouve en prison, nous sommes en 1791, il ne reste pas très longtemps en prison, quelques semaines, il en sort, seulement évidemment, s'il en sort, parce qu'effectivement, il n'y avait rien à lui reprocher. Et on est encore dans une époque où le droit l'emporte à peu près. Il se rend bien compte que l'atmosphère est malsaine. Et il décide, avec sa famille, de quitter Moulins. Il décide de quitter Moulins. Quand je dis avec sa famille, ça veut dire essentiellement avec sa sœur et sa fille. Se prénomme Alexandrine. Et Alexandrine, elle est toute jeune, elle est née en 1779. Hein, notre héroïne, elle a donc 10 ans au moment où démarre la Révolution. Et elle va arriver à Lyon en 1792, à l'âge de 13 ans. Hein, c'est donc une toute jeune fille qui, en plus, a une allure assez chétive, comme on aura l'occasion de s'en apercevoir dans les descriptions que je donnerai tout à l'heure. Donc, il décide. Alors, je n'ai pas parlé de sa femme. J'aurais dû. Parce que sa femme, elle est morte. Elle était née. je recherche très précisément son nom. Elle était née Anodile de Tarade et elle était morte en 1786. Et elle était apparentée à un autre noble dont on va faire la connaissance, dont les Lyonnais vont faire la connaissance. Hein, il s'agit d'Edmond Louis-Alexis Dubois de Crancé, mais qui va être connu comme le général révolutionnaire Dubois-Crancé. C'est lui qui va commander les troupes hein, qui vont assiéger et bombarder la ville de Lyon en 1793. Je note au passage, hein, pour montrer une fois de plus, combien les situations sont mêlées à cette époque hein, et comment les engagements des uns et des autres peuvent être divers dans la même famille. En tout cas, donc, la femme d'Étienne François est morte, donc par question qu'elle l'accompagne à Lyon. Et ils vont donc à Lyon. Et elle explique très bien dans le bouquin, c'est pour être tranquille. Parce qu'ils estiment que dans une grande ville, ben, ils seront perdus dans la foule et ils n'auront plus à craindre des menées contre eux, comme ça pourrait être le cas à Moulins, hein, où la famille demeure quand même. Et alors là, il se passe un événement, il se déroule un épisode qui est extrêmement révélateur. C'est que sur la route de Lyon, ils font halte à mi-chemin. Or, la route qui descend, qui est en fait la route de Parc, hein, qui descend de Moulins à Lyon, à mi-chemin, à exactement 100 km, c'est Roanne. Ils font escale à Roanne. Ils sont obligés d'ailleurs, ils sont obligés parce qu'il y a des papiers, des documents dont le père a besoin, qui sont envoyés de Moulins et qui doivent le rejoindre et qu'il veut absolument récupérer. Et il se trouve, vous voyez comme le hasard fait des choses, ça lui fait bien, ça fait mal, ça lui fait des choses. Il se retrouve à Moulins, à Roanne, pardon, juste au moment où un Lyonnais qui commence à devenir célèbre s'y trouve, qui lui vient de Paris, c'est Chalier, le fameux Chalier, Joseph Chalier, celui qui va personnifier la Révolution dans son aspect le plus effrayant. Hein, celui au nom duquel d'ailleurs sera menée ensuite une répression très forte à Lyon. Or Chalier, Chalier qui est un petit bonhomme qui n'a pas en soi une grande importance, si je me rappelle bien, c'était un commis voyageur et en représentant en soierie, hein, qui était originaire du Val d'Oz, de l'autre côté de la frontière. Et Chalier était à Paris, où il a vécu le 10 août. Hein, nous sommes à l'été 92. Il a vécu le 10 août. Et alors là, il explique, lorsqu'il est de passage à Roanne, combien cet événement a été important. Et Alexandrine l'entend. Et Alexandrine reproduit ses propos en partie au style indirect, et je vous lis donc ce passage. Donc Alexandrie, hein, qui nous explique comment Chalier, à Roanne, va parler du 10 août qu'il a connu en étant à Paris. Enfin, la journée du 10 août retentit dans toute la France. Le trop fameux Chalier, revenant de Paris où il avait déporté une tribune du Führer, profita de son rapide passage à Roanne pour y prêcher des doctrines nouvelles. Monté sur l'impérial de la diligence, pérorant de la voix et du geste, il appelait le peuple à la connaissance des bienfaits. Sa bouche vomissait l'imprécation et le blasphème. Une bave sanglante coulait de ses lèvres et portait son ardeur dans la foule agitée. J'entends encore les mots terribles qui finissait la harangue de cette énergumène. Là, elle le cite de mémoire. « Frères et amis, vous avez détruit l'infâme Bastille, mais vous n'avez abattu que des murailles. » Un travail plus beau vous attend. Abattez des têtes et vous serez libre. Abat les rois, mort aux tyrans. Vive le peuple, vive la liberté. La voiture partit et il criait encore, mort aux tyrans. Une scène pareille fit comprendre à mon père le danger d'habiter plus longtemps une petite ville si près de Moulins, Rouen, où nous étions trop en vue. Mieux valait chercher son salut dans la foule, etc. Et c'est pour ça, donc, qu'ils vont aller à Lyon. Et le portrait qui dressait de Chalier correspond tout à fait à la réalité. Parce que nous savons bien que, dans les mois qui vont suivre, que va-t-il se passer à Lyon ? Dans un premier temps, Chalier ne peut rien faire à Lyon. Pourquoi ? Parce que la municipalité, les autorités à Lyon, notamment de la municipalité, mais aussi du district et du département, ces dirigeants sont tous des modérés. Et Chalier en est réduit à crialer, mais il criale beaucoup. Et c'est ce qu'il va faire tout le temps. Et même lorsqu'il sera au pouvoir, il ne va pas être au pouvoir très longtemps, il sera au pouvoir de février 93 à fin mai 93. Lorsqu'il sera au pouvoir, Chalier n'arrêtera pas de dire « Il faut guillotiner, il faut couper les têtes !» Vous savez, c'est lui aussi qui avait une idée extraordinaire de faire installer la guillotine sur le pont du Rhône pour que les victimes dont les corps seraient tranchés, eh bien les deux parties, la tête et le reste du corps, tombent directement dans le fleuve et soient emmenées au loin. C'est le genre de choses qu'il racontait, qu'il n'a jamais réalisé, il faut être honnête. Il n'a jamais réalisé pour une raison très simple, c'est que la guillotine n'est pas arrivée à Lyon quand il y était. Elle arrivera plus tard, et ça, c'est une part fatale, puisque c'est lui qui traînera la guillotine dans les conditions aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, Alexandrine a bien perçu quel était le personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui vocifère et qui n'arrête pas de menacer les gens, et plus tard ses concitoyens quand il exercera des responsabilités dans la ville. 10 août 1792, la famille des Escherolles se trouve donc à Rouen. Et puis ensuite, ils viennent, comme ils ont estimé devoir le faire, ils viennent à Lyon. Et là se produit un événement qu'on a un peu oublié dans la mémoire lyonnaise. Je ne dis pas complètement, mais à mon sens, on ne met pas suffisamment en avant. C'est ce qui se déroule le 9 septembre, c'est-à-dire un mois plus tard. 9 septembre 1793, c'est le massacre de 8 officiers du Royal
Dragon.
92, donc un mois après le 10 août, le 9 octobre.
Je suis bien.
Massacre de 8 officiers du Royal Dragon. Pologne, le nom avait été changé, mais on continue à dire de Pologne, et de 3 prêtres réfractaires. Et c'est un massacre que, là aussi, Alexandrine décrit. Je pense que le mieux, c'est de lui donner la parole, d'autant plus que tout ça se passe dans un point très, très précis, j'allais dire sur les deux bords de la Saône, entre le château de Kersive et la place d'Ivron. Le 9 septembre, voulant jouir d'un temps assez doux, nous nous étions réunis plutôt que de coutume. Alors, quand elle écrit « nous nous sommes réunis », elle ne met que le pluriel, parce que en arrivant à Lyon, et ça c'est une des choses assez caractéristiques des mémoires d'Alexandrine de Desroches, en arrivant à Lyon, ben, elle se lie soit avec des jeunes filles, soit avec des jeunes femmes, soit même avec des femmes déjà mariées, et elle reconstitue en quelque sorte une petite société, hein, comme ça pouvait déjà exister auparavant. Mais les choses vont changer. Nous étions réunis plutôt que de coutume dans le jardin, et nous sautions gaiement sous les beaux arbres qui en faisaient l'ornement. Lorsque nos jeux furent tout à coup interrompus, la consternation se peignit sur toutes les figures, des cris sauvages se firent entendre, des bruits de peuple vinrent mugir jusqu'à nous comme une tempête furieuse et portèrent l'effroi dans nos âmes. On massacrait les prisonniers renfermés à Pierre-Sise. Pierre-Sise, forteresse et prison d'État, était bâtie sur un rocher isolé, assez élevé, qu'on a fait sauter depuis, effectivement, quelques semaines après. C'est là que les officiers de Royal Pologne étaient détenus. Déjà désignés à la fureur du peuple, c'étaient ces malheureux qu'ils venaient réclamer à grands cris. On a prétendu que le maire de Lyon à cette époque, c'est Louis Vitet, un personnage dont je pense pouvoir dire qu'il n'était pas très recommandable. On a prétendu que le maire de Lyon avait reçu depuis 2 jours l'ordre de leur mise en liberté, mais qu'il crut leur mort nécessaire au progrès du mouvement révolutionnaire. La foule se répandit comme une lave brûlante, marquant son passage par le désastre et la mort. Elle trouva sans peine les victimes qu'on lui avait préparées. Une seule leur échappa. C'était M. Desplantes qui sauta par la fenêtre et tomba dans une petite cour. Tous ces malheureux officiers furent arrachés de la prison, traînés, déchirés, massacrés. Il en périt sur les marches mêmes du rocher de Pierre-Sise. Les moins heureux ne reçurent le coup de grâce que sur la place d'Étienne. Alors, je passe sur les événements qui se déroulent ensuite. Enfin, vous les connaissez, je les résume, c'est-à-dire que la municipalité lyonnaise, dont vous avez vu que le principal dirigeant, le maire, on parle Alexandrine, se montre assez pusillanime et surtout ne veut pas qu'on puisse l'accuser, hein, de favoriser, comme on disait à l'époque, l'aristocratie des réactionnaires. Cette municipalité laisse faire, et puis cette municipalité va même être remplacée par une municipalité beaucoup plus dure, beaucoup plus jacobine, dirigée en fait par Chalier. Je dis en fait parce que Chalier, contrairement à ce qu'on dit, souvent, Chalier n'a jamais été maire de Lyon, mais il avait, on va dire, des prête-noms, hein, qui ont dirigé la ville en son nom, et c'est donc ce qui se passe, hein, dans l'hiver et le printemps qui suit, jusqu'à la fin mai 1793. Parce que vous savez qu'à la fin mai 1793, il va y avoir un mouvement de révolte des Lyonnais, c'est-à-dire une coalition de tous les modérés, aussi bien les Girondins que les royalistes constitutionnels, de ceux qui avaient peut-être même pas d'engagement bien précis, pour se débarrasser de Chalier et de ses amis. C'est la journée du 29 mai 1793, qui aboutit donc au remplacement des montagnards lyonnais par des modérés. Or, au même moment, à quelques jours près, à Paris, entre le 30 mai et le 2 juin, c'est le mouvement exactement inverse qui s'opère avec l'arrestation des Girondins. C'est-à-dire que à Paris, les montagnards prennent le pouvoir au moment où, à Lyon, ils le perdent. Vous pensez bien qu'il a été assez difficile aux nouvelles autorités lyonnaises d'établir et d'enseigner d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'échanges, d'éducation, de lettres, de courriers, hein, mais il a été quand même très difficile aux nouvelles autorités lyonnaises, hein, d'établir des rapports corrects avec Paris, où venaient donc de prendre le pouvoir les montagnards qu'on venait d'éliminer à Lyon. D'autant plus que, bien entendu, Chalier, qui a été arrêté, mis en prison, condamné à mort, exécuté, je vous ai laissé entendre tout à l'heure qu'il a été la première victime de la guillotine qu'il avait fait venir et qui est enfin arrivée. L'exécution s'est très très mal passée, c'est-à-dire qu'il a fallu, que le bourreau, qui n'avait aucune expérience, termine sa tâche au couteau. Bon, je passe sur les détails. Mais Chalier, dorénavant, va apparaître comme un, comme un martyr de la liberté, c'est-à-dire un martyr, hein, du jacobinisme, un martyr des montagnards. Et on va en faire une sorte de saint laïque, hein, dont on ne va pas arrêter de parler, d'autant plus que certains de ses proches vont à Paris pour dire aux jacobins parisiens il faut absolument que vous interveniez, c'est pas possible, hein, de laisser les modérés, les girondins, les royalistes, bientôt toute insurrection, enfin tous les responsables lyonnais vont être qualifiés de royalistes, ce qui est quand même très exagéré. À l'époque, c'est moins compliqué. Donc, rupture inévitable entre Lyon et Paris, et ça se traduit donc par l'envoi d'une armée, qui est commandée par le général Kellermann, hein, celui qui a gagné Valmy l'année précédente, et vite remplacé par Dubois français, le Dubois français. Apparenté à la femme du père d'Alexandrine, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous savez comment tout cela se termine. Tout ça se termine par un siège en bonne et due forme qui va aboutir à ce que la ville de Lyon soit prise, et en même temps d'ailleurs, vous savez, non seulement la ville va être prise, mais elle va être débaptisée. Hein, c'est-à-dire que suivant le décret de la Convention, hein, qui est pris au tout début octobre 1793, hein, Lyon n'est plus, et sur ses ruines, hein, sera plantée une inscription avec ces mots: Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus. Et sur les ruines fumantes de cette ville, on écrira simplement le nom de commune affranchie. Alors, on dit commune, ville affranchie, hein, c'est le terme de l'époque, c'est-à-dire qu'on fait disparaître jusqu'au nom de Lyon. Et là, je suis allé très vite d'un point de vue militaire, et il faut quand même que je précise que parmi les gens qui organisent la défense de Lyon, eh bien, il y a le père d'Alexandrine qui a joué un rôle. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas exagéré, même si on n'a plus l'habitude de le citer, il n'est absolument pas exagéré de voir en lui un des chefs militaires de l'insurrection. Alexandrine précise même dans ses mémoires qu'on avait d'abord proposé à son père de prendre le commandement des troupes lyonnaises. Et celui-ci a refusé, comme d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Agnès de Genette, ou qu'elle l'a même avait été faite, et par conséquent, c'est de cette manière qu'on a fait appel à Précy, hein, le comte Vérin de Précy, hein, qui devient donc le général de Précy, commandant des troupes lyonnaises. Mais notre François-Étienne des Écherolles, le père d'Alexandrine, n'en dirige pas moins une partie des lieux où se déroulent les combats, notamment à un endroit où on lui demande de tenir à tout prix, c'est l'ensemble formé par la porte Saint-Irénée et la porte Saint-Just. Hein, c'est-à-dire que là, il y avait des remparts de la ville de Lyon, et c'était quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, je crois que ça va être un des derniers lieux qui vont tomber lorsque les troupes de la Convention vont s'emparer de la ville. Alors tout cela, Alexandrine le raconte dans son livre. Hein, Alexandrine nous montre très bien comment son père vivait, on a presque envie de dire survivait, d'autant plus qu'il n'était pas en très très bonne santé. C'était d'ailleurs une des raisons qu'il avait avancées pour refuser le commandement général des troupes. Il n'était même plus capable de monter et de tenir à cheval. Mais bon, il fait partie de ceux qui défendent la ville et une ville qui se trouve bien entendu dans une situation de plus en plus précaire, y compris, je dirais, au niveau des besoins vitaux quotidiens. Là aussi, je lui laisse la parole. Le prix des vivres devenait exorbitant. La ville, resserrée chaque jour davantage, voyait aussi chaque jour diminuer ses ressources et chacun ménageait ce qu'il lui en restait. Nous mangeons un pain détestable, fait d'une farine échauffée. Vous savez, la farine échauffée, c'est celle qui a trop fermenté. D'une farine échauffée qui le rendait sans doute malsain. Encore faisait-on cuire en cachette ce mauvais pain de belle apparence, car on craignait de laisser apercevoir ce que l'on avait mis en réserve, moitié par prévoyance pour se conserver les moyens de subsistance, moitié pour ne pas paraître plus heureux que les autres. Mon père recevait une ration de pain et une de viande, ce qui faisait la plus solide de la nourriture du ménage. Elle dit le ménage, ça veut dire que ça concerne non seulement le père, mais ça concerne elle, ça concerne sa tante, la sœur de son père qui les a suivis, et un des fils qui était parti en émigration et qui est revenu, il était parti à l'armée des princes, hein, de l'autre côté de la frontière, et il est revenu à Lyon et pour combattre aux côtés des Lyonnais. On a peu de renseignements sur lui, mais on sait qu'il était là également. Donc, vous voyez, ça faisait quatre personnes qui vivaient sur une ration quotidienne quand même extrêmement limitée. Une petite pièce, tour à tour transformée en salle à manger ou en salon, devenait la chambre à coucher de ceux qui ne savaient où passer la nuit. On y étendait par terre autant de matelas qu'il y avait de gens. On était aisément satisfait. L'homme a peu de besoins. Occupé des grands événements de l'époque, pouvait-on penser aux aisances de la vie? Lutter contre le péril, se défendre jusqu'à la mort, voilà les seules idées qui absorbaient toutes les autres. Que de jeunes gens forts et courageux j'ai vu sortir de cette petite chambre, rafraîchie par un doux sommeil, pour courir gaiement à leur fatigue journalière et rencontrer la mort. Alors la mort, elle va bientôt se manifester pour beaucoup de gens avec la prise de la ville. Et Alexandrine nous raconte comment elle s'est aperçue que la ville était tombée. C'est assez prosaïque, un petit peu surprenant. Nous sommes au matin du 9 octobre, donc toujours de cette année 1793. Je regarde par la fenêtre. Un objet nouveau frappe ma vue. C'était un homme poussant une brouette chargée de beurre et de volaille. La ville est donc prise, m'écriai-je. En effet, les ennemis en étaient maîtres. Vous voyez, il y a là une évocation de ce changement fondamental qui s'opère à ce moment-là, tout à fait inattendu. Mais évidemment, ça va avoir beaucoup de conséquences, et ça va avoir beaucoup de conséquences par une désorganisation générale, par un saut qui peut pour ceux qui peuvent, mais simplement par le fait que chacun ne sait plus très bien ce qu'il peut faire. Alexandrie. La ville est en prise, chaque individu se trouva seul, détaché de cette masse d'hommes qu'un même esprit animait encore peu de jours avant, et dans laquelle, depuis quelques mois, on se sentait citoyen du même pays, où l'on n'avait qu'un cœur pour l'aimer et le servir, où tous les intérêts étant confondus dans un seul intérêt, chacun sacrifiait sans hésiter sa vie et sa fortune pour rendre à cette malheureuse patrie les plus précieux biens, la paix et une sage liberté. Alors bien sûr, vous direz-vous, ce texte est écrit longtemps après. Je pense qu'il y a là quand même une analyse assez fine de la situation, hein, qui montre comment, pendant le siège de Lyon, tout le monde se serrait les coudes, évident, mais en même temps, tout le monde communiait, hein, dans la même vision de l'avenir et d'une société, parce que pour eux, elle l'explique dans d'autres endroits, hein, parce que pour eux, eh bien, on jouissait d'une véritable liberté, hein, depuis qu'avaient été éliminés les Jacobins montagnards. Elle poursuit, et ça résume tout ce qui va se passer ensuite. En peu de jours, les arrestations se multiplièrent rapidement. À leur suite marchèrent les exécutions. Ceux qui étaient restés dans la ville, ou ceux que leur malheur y avait ramenés, perdaient journellement l'espoir d'échapper au même sort. Et alors là, on va assister à une sorte de descente aux enfers familiale. C'est-à-dire que, d'un côté, le père d'Alexandrine et son frère vont arriver à quitter la ville. Ça n'a pas été facile. Ils ont été aidés. Ils ont même sans doute été aidés par un de leurs amis qui était dans l'armée assiégeante. Il y a eu beaucoup de temps et de contre-temps. On suit, grâce à ce qu'en a écrit Alexandrine, on suit les pérégrinations du père, hein, qui va même jusqu'à se réfugier dans un hôpital, parce qu'il pense qu'à l'hôpital, on ne viendra pas voir qui s'y trouve réellement. Et puis bon, il comprend qu'il n'en est rien. Et finalement, il va réussir à quitter la ville. Nous savons que ceux qui ont réussi à sortir de Lyon à cette époque n'ont pas été très nombreux. Il y en a qui ont essayé de faire de façon militaire, en groupe. Hein, ce sont tous ceux qui sont partis par le faubourg de Vaise en remontant la Saône. Et donc, en général, le périple s'est arrêté du côté de Thésée, hein, où, après avoir été poursuivi par l'armée jacobine, ils ont été massacrés, hein, par certains habitants du coin. C'est dans ces conditions qu'un certain nombre de gens perdent la vie, tandis que d'autres réussissent à partir. Et ça va être le cas notamment du chef Précy. Hein, le général comte de Précy, vous le savez, va réussir par étapes, hein, en se cachant beaucoup d'ailleurs, à arriver jusqu'en Suisse. Eh bien, figurez-vous que c'est un peu le même itinéraire, pas sur le plan géographique, mais en fait, grosso modo, que va suivre le père. Hein, le père d'Alexandrine va arriver en Suisse, avec d'ailleurs son fils, enfin chacun de leur côté, hein, puisqu'on trouvera leurs traces, et que l'année suivante, un organisme qui avait été mis en place par les autorités suisses, qu'on appelait la commission de Berne, eh bien, renouvellera leur autorisation de séjour temporaire. À partir de là, le destin du fils et du père vont être différents. C'est-à-dire que le destin du père, finalement, il se perd dans les aléas de l'époque. C'est-à-dire qu'il se cache et puis bon, il va arriver à vivre tranquillement, finalement, et il mourra un peu plus tard, vous savez, en 1810. Alors que le fils, alors ça c'est très curieux, mais ça aussi c'est très très révélateur de l'époque. Le fils va avoir un destin très, très singulier, parce que le fils retourne dans l'armée des princes, l'armée des immigrés, il retourne dans le régiment noble de Condé, qui était un régiment qui avait la particularité d'avoir comme homme de troupe pratiquement que des aristocrates, hein, qui étaient venus combattre. Il y retourne, il combat, et puis finalement, il rentrera en France. Il rentrera en France, obtenant, bien entendu, parce que ça, c'était nécessaire, d'être radié de la liste des émigrés, et il prendra, exactement, il reprendra une carrière militaire. Et cet homme qui a combattu parmi les révoltés de Lyon va devenir un officier des armées révolutionnaires et impériales, hein, puisque il terminera, hein, que je dégonne exactement ce qui s'est passé pour lui. Il fera partie de la Grande Armée, participera à la campagne de France en 1814, assistera même aux adieux de Fontainebleau, se ralliera à Louis XVIII, et à partir de là aura plutôt une carrière civile, hein, puisqu'il sera notamment sous-préfet de Belley, hein, avant de se retrouver dans d'autres affectations. Je crois que c'est aussi typique, hein, de tous les chamboulements de cette époque, hein, en voyant, hein, ce que le fils est devenu. Le fils aura des enfants, on va en reparler dans quelques instants également. Le père, donc, lui, il n'y a plus rien de notable, mais il nous reste à Lyon, Alexandrine et sa tante. Hein, sa tante Marianne, la sœur de son père. Et alors là, c'est quelque chose très important, très émouvant, très pathétique, parce que cette tante faisait office de mère pour Alexandrine. À de nombreuses reprises, elle a des pages vraiment très, très touchantes, et en particulier en cette révolution, en cette période de la révolution. Eh bien, tout simplement, parce que les révolutionnaires qui exercent maintenant le pouvoir à Lyon depuis la prise de la ville décident, puisqu'ils n'ont pas pu s'emparer du père, Étienne François, eh bien, ils vont s'emparer de sa sœur et la condamner à sa place. Ils ne s'en cachent pas, hein, c'est une victime de substitution. C'est une victime de substitution, et on voit cette femme qui était, qui n'avait pas très très bonne santé, elle aussi, qui avait des difficultés pour se déplacer, eh bien, on la voit arrêtée, traînée en prison, condamnée à mort et guillotinée. Et surtout, on voit Alexandrine qui lui rend visite en prison, parce que ça aussi, c'est un des paradoxes de l'époque, moyennant quelques assignats, elle le raconte d'ailleurs elle-même, on pouvait approcher les prisonniers, y compris ceux dont on savait qu'ils étaient vraiment sur la plus mauvaise pente qui soit. Et elle arrivait même à lui porter de la nourriture, y compris à l'occasion de scènes, il y en a une qu'elle relate, que je vais résumer, parce que je ne peux quand même pas tout citer. sa tante n'a pas été condamnée à mort tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'exécutions, notamment par la guillotine, place Bellecour et place Hétéraud. Il y a eu beaucoup d'exécutions à ce moment-là. Et évidemment, la jeune Alexandrine faisait toujours très très attention de ne pas passer sur ces places au moment des exécutions qui avaient lieu en général à midi. Et un jour, l'horaire a été décalé. Un jour, l'horaire a été décalé. Notre pauvre Alexandrine a dû assister à une succession d'exécutions par la guillotine, 7, je crois, au total, qui s'est effectuée place Bellecour. Et évidemment, les gens qui étaient sur la place Bellecour, vous savez, c'était le genre de ceux qui se repaissent du spectacle de la mort. Et ils ont vu cette petite jeune fille qui était là, qui manifestement n'éprouvait pas tout à fait les mêmes sentiments qu'eux. Et alors, ils ont commencé à charrier, le terme est faible, d'autant plus qu'ils se sont rendus compte qu'elle transportait des provisions dans son panier. Et ils ont bien compris que ces provisions devaient être destinées à des gens qui se cachaient ou qui étaient prisonniers. Alors elle a réussi à s'en sortir, mais c'était quand même une expérience extrêmement traumatisante pour elle. D'ailleurs, toute cette période durant laquelle elle va voir sa tante est traumatisante. Elle essaye de la sauver. Elle essaye de la sauver. Elle essaye de la sauver en particulier en allant voir le... Parce qu'elle elle doutait de rien, elle ne craignait rien. En allant voir le président de la commission révolutionnaire, président du tribunal, Parrain qui avait le titre de général, il avait été fait général peu de temps auparavant, et général dans l'armée révolutionnaire. L'armée révolutionnaire, c'était un corps de maintien de l'ordre qui n'avait rien à voir avec l'armée régulière. Elle va voir Parrain, qui était donc le président du tribunal, et Parrain lui jette froidement à la figure. Comme particulier, je comprends bien ce que tu ressens, mais en tant que républicain, je ne peux que confirmer le jugement qui a été fait. Et elle apprendra d'ailleurs par la suite que c'est Parrain qui s'est occupé personnellement du cas de sa tante et qui avait dit qu'une aristocrate comme elle, il fallait absolument l'exécuter et lui couper la tête. Alors évidemment, Alexandrine a été très, 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 très fortement marquée par cette expérience. Elle relate les propos qu'elle a tenus face à Parrain, face à d'autres, et qui sont des propos qui sont quand même, je dirais, extrêmement révélateurs du type d'attachement qui la liait à sa tante, qu'elle considérait comme sa mère. Elle n'hésite pas à lui dire au président du tribunal révolutionnaire, c'est ma tante, c'est ma vie que je viens vous demander, c'est elle qu'il faut me rendre, c'est ma mère, c'est tout ce que je possède. Et là, on sent véritablement ce qu'elle a pu éprouver et qui va rester très, très marquant dans sa vie. Alors je voudrais, avant de terminer, mentionner quand même quelque chose, et ce n'est pas simplement pour vous inciter à prendre le livre que j'ai écrit sur Fouché, que vous trouvez à la sortie, mais je voudrais insister sur quelque chose qui, là encore, montre les extraordinaires rencontres de cette époque. Je viens de vous parler de Parrain, le tribunal, le président du tribunal révolutionnaire de Lyon. Or, Parrain, elle le raconte, elle l'avait connu à Moulins. Parrain avait fréquenté son père. Parrain avait été à la table de son père. Il avait été l'hôte de son père. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que Parrain était quelqu'un qui était arrivé dans l'Allier, d'abord à Nevers et ensuite à Moulins, avec Fouché. Avec Fouché. Et Fouché, vous le savez, quand il arrive à Lyon, fin octobre, novembre 1793, Fouché arrive de Moulins. Et je trouve qu'il est assez extraordinaire de voir que se retrouvent dans la ville à la fois les bourreaux et les victimes. C'est le pur fruit du hasard, mais j'insiste quand même là-dessus parce qu'il n'y a pas simplement des personnalités comme Fouché, le représentant en mission, le véritable auteur de toutes, responsable de toutes les exécutions qui ont lieu à Lyon. Il n'y a pas simplement lui et son âme damnée parrain président du tribunal actionnel, mais il y a toute une bande de sans-culottes, comme on disait à l'époque, qui sont venus de Moulins. Et donc, vous avez des gens du Bourbonnais, de l'Allier, pour employer les nouvelles définitions départementales qui ont été mises en place à ce moment-là. Vous avez tout un ensemble de gens de l'Allier qui se retrouvent à Lyon en même temps que les Giraud des Écherolles qui sont considérés comme extrêmement représentatifs de ce qu'on appelle, d'une manière de vue générique et très très globale, les émigrés. D'ailleurs, la maison familiale des Écherolles à Moulins est devenue, pendant la Révolution, c'est-à-dire quand eux ont quitté Moulins, c'est devenu ce qu'on appelait à l'époque la maison nationale où se réunissaient tous les révolutionnaires du département de l'Allier. Là encore, nous avons un exemple de tous ces télescopages, je n'ose pas dire brassages, ces heures, de ces mélanges, de ces rencontres dans une période extrêmement troublée. J'ai insisté sur les liens qui unissaient Alexandrine à sa tante Marianne. Ces liens, on les voit, je dirais, on les sent dans presque chaque page de ses mémoires. Et il y a une relation de nièce à tante qui est très forte et qu'Alexandrine va perpétuer ensuite à l'égard de sa propre nièce, Maria des Écherolles, qui est la fille de son frère qu'il avait, qui était venu à Lyon un certain temps, vous savez, celui qui va devenir officier dans les armées révolutionnaires et impériales. Et c'est à elle qu'elle va dédier plus exactement, son livre de souvenirs. Et à plusieurs reprises, elle emploie le terme « ma chère enfant, c'est pour toi que j'écris, ma nièce, etc. » Et elle transpose, ou elle continue, comme on veut, les sentiments qu'elle éprouvait par rapport à sa tante, du côté de sa propre nièce, qui devient en quelque sorte sa confidente et celle qui incarne sa propre sensibilité. Car Alexandrine, qui va mourir bien plus tard, sous le Second Empire, Alexandrine ne se mariera jamais. Alexandrine n'aura pas de descendants. La famille des Écherolles, bon, il y en aura beaucoup, il y en a même une branche qui s'établira en Roumanie, mais Alexandrine, non, il n'y a pas de descendants. Et il n'y a pas de descendance, et je pense pouvoir terminer par là. Les soins qu'elle a portés à sa tante. L'attention qui va être la sienne à l'égard de sa propre nièce, tout ça va se manifester aussi par le poste qu'elle accepte sous la Restauration en France, où elle devient dame d'honneur d'une princesse de Württemberg. Elle va donc s'établir en Allemagne et elle sera d'ailleurs la gouvernante des quatre filles de la princesse de Württemberg, dont elle parle également dans son ouvrage, les quatre princesses alliées à toutes les maisons souveraines d'Autriche, de Prusse, etc., hein, qui justement vont constituer en quelque sorte le dernier avatar, si j'ose m'exprimer ainsi, des liens affectifs que Alexandrine avait développé avec sa tante et reporté ensuite sur d'autres. À commencer bien sûr par sa nièce, mais aussi hein, par ces quatre princesses de Württemberg dont elle parlera. Les souvenirs d'Alexandrine ont été assez peu utilisés par les historiens. Le seul qui en ait vraiment parlé en lui consacrant deux paragraphes, c'est Lamartine, dans son histoire du Girondin. Alors là, je ne vais pas même pas vous imposer tout ça, mais il faut quand même en connaître une partie, parce que c'est du Lamartine. Au nombre de ces victimes suppliciées dans leur corps et dans leur âme, avant l'âge du crime, on remarquait Mademoiselle Alexandrine des Escherolles, privée de sa mère, etc., etc. On dut plus tard à cet enfant quelques-unes des pages les plus dramatiques et les plus touchantes de ce siècle. Et il terminera en disant que, comme d'autres, elle écrivait avec le sang de sa famille et avec ses propres larmes le récit des catastrophes auxquelles elle avait assisté. Et puis alors là, une généralisation spécifique de l'époque. Les femmes sont les véritables historiens des guerres civiles parce qu'elles n'y ont jamais d'autre cause que celle de leur cœur et que les souvenirs y conservent toute la chaleur de leur passion. Voilà, si vous le voulez bien, nous en resterons là et je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci. 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 Merci.
Alors, Gondac, c'est toi qui tiens le micro d'habitude.
Oui.
Alors, si on peut passer aux questions, ce serait sympathique. Quelqu'un a des questions? Alors, levez-vous, s'il vous plaît, pour poser des questions.
Sans doute parce qu'elle était trop jeune. Sans doute parce qu'elle était trop jeune. En 93, elle a 14 ans. Elle a 14 ans, et d'ailleurs, elle montre bien dans le passage qu'elle a écrit qu'il y avait des révolutionnaires qui étaient en quelque sorte émus hein, par son propre aspect. Elle montre en particulier un guichetier, hein, vous savez, les guichetiers, c'est ceux qui étaient à l'entrée des prisons, qui dit à un de ses collègues, mais laisse passer la petite citoyenne, là, tu vois bien comment elle est si chétive, elle ne tient même pas debout, elle va tomber, etc. Donc je pense que l'aspect physique a sans doute joué et qu'elle devait être considérée sans doute comme trop jeune. Alors là, bon, c'est une hypothèse que je formule, mais je ne pense pas que les tribunaux révolutionnaires aient guillotiné beaucoup d'enfants. Bon. En tout cas, il n'y a jamais eu de mesure prise contre elle. Elle n'a jamais été considérée comme quelqu'un dont il fallait s'assurer, voire même la mettre en prison. Alors, elle dit qu'elle craignait quand même de se faire arrêter, mais ça ne s'est jamais passé, sans doute parce que elle était trop jeune.
Question ? Moi, j'ai une question. J'ai lu le livre avec intérêt et j'ai beaucoup aimé les passages où elle raconte les visites à sa tante. Alors elle disait qu'elle allait visiter sa tante avec sa bonne, parce que tu n'as pas parlé des bonnes. Elle allait avec sa tante, elle allait visiter sa tante avec son panier.
Les belles filles ne se promenaient jamais toutes seules.
Et elle avait donc, elle allait avec sa bonne et il y avait, qui gardait l'appartement, il y avait un gardien. Le citoyen Forêt, avec lequel qui était censé garder la maison et qui était payé par eux. Et alors, elle raconte qu'elle y allait souvent voir sa tante. Alors, la question que je voudrais te poser, comment vivaient les prisonniers, puisqu'ils n'étaient pas nourris, semble-t-il, ceux qui n'avaient pas de famille, comment faisaient-ils pour vivre?
Alors, ils étaient théoriquement nourris. Mais c'était extrêmement théorique et c'était tout à fait insuffisant. Je crois d'ailleurs qu'elle le raconte. Et il était indispensable de leur apporter de la nourriture. Et en général, les prisonniers partageaient la nourriture entre eux. Et Alexandrine a aussi un passage dans lequel elle montre très bien que toutes les femmes qui sont là, parce que d'un côté il y avait des femmes, d'autre côté les hommes, que toutes les femmes qui sont là appartiennent absolument à tous les milieux. Elle a une description que j'aimerais bien vous retrouver. Voilà. Elle décrit ce qui existait dans les deux prisons où sa tante s'est retrouvée, qui étaient les prisons l'une à côté de l'autre. Il y avait la prison des reclus, rue Salah, et puis la prison Saint-Joseph ou Saint-Hélène. Et il y avait là des femmes nobles, des poissardes, des religieuses, des filles publiques, des femmes riches, de pauvres servantes, des paysannes et des marchands de terre. Et elle note même qu'à un moment, il y a une petite Anglaise de quelques années qui est là, avec sa nourrice, une nourrice qui ne parle pas un mot de français, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il en est advenu. Mais c'est vrai qu'en général, à condition de graisser un peu la patte des gardiens, on pouvait faire passer de la nourriture. Et puis il y avait, puisqu'on parle du citoyen Forêt, qui était en quelque sorte surveillant installé dans la maison où elle se trouvait, il y avait parfois une évolution dans le comportement des gens. Et Forêt, qui au départ joue révolutionnaire pur et dur, ben, petit à petit, il se calme et il devient sinon gentil, tout au moins compréhensif. Ce qui n'est pas du tout le cas de sa femme. Sa femme, elle, entre autres, sa grande joie, c'était d'aller assister aux exécutions par la guillotine. Alors que Forêt, lui, ne supportait pas ça. En plus, Forêt, il avait un père qui était un révolutionnaire pur et dur, lui. Et les choses ne se passaient pas très bien. Donc là, vous voyez aussi, on a, de façon un peu pointilliste, quelques descriptions qui nous montrent des types assez différents de gens de la Révolution. Mais c'est vrai qu'on peut être surpris de prime abord de voir qu'il y avait sinon une liberté, tout au moins des possibilités de se déplacer jusqu'auprès des prisonniers. D'ailleurs, je crois que dans certains cas, il y en a qui ont réussi à se faire.
Je crois qu'il y a une question à gauche, là.
Une funéraille de la chambre, comment est-ce qu'elle en passe?
Non.
Comment elle a la vie?
Non. Non. Non, vous savez, en général.
Attends, il n'y a pas entendu. Vous entendez au fond, non?
Et sur des funérailles de
Raoul
la tante.
Demande si on a des informations sur les funérailles de la tante.
Non, parce que
les tantes guillotinées.
La tante guillotinée.
Qu'est-ce
qu'on a fait des guillotinées?
Les condamnés étaient enterrés dans des fosses communes. Hein.
Oui.
Et en revanche, ce qui se passait, c'est que la place des cours et la place des terreaux ruisselaient de sang. Ça, c'est vrai, elle le raconte. Hein, elle le raconte et à un moment, elle dit que les passants s'en écartaient, hein, ne voulant pas mettre leurs pieds là où le sang affleurait. Et elle dit bien, hein, qu'on avait fait jeter la terre en plus pour éponger le sang, mais que ça n'était pas suffisant. On rappelle quand même qu'il y a des centaines de personnes, hein, qui ont été décidées, et un peu moins, mais des centaines aussi, passées par les armes dans des conditions que nous savons, hein, du côté de la peinture.
Oui. Qu'est devenu le sinistre parrain?
Ah, parrain? Ben, parrain? Parrain? Bonne question, mon cher Élise, bonne question. Hein, parce que parrain, c'est quelqu'un qui s'était lié à Fouché. Parrain, c'est quelqu'un qui s'était lié à Fouché. On ne sait pas très bien où ils se sont rencontrés. Peut-être dans l'Ouest, parce que au début, vous savez, bon, Fouché, c'était un député de Nantes et il a exercé des missions de représentant en mission dans l'Ouest. Et Parrain a été là-bas également. Parrain, c'était plutôt un Parisien, je crois. Ils se sont peut-être liés là-bas, et alors après, on peut dire vraiment, Parrain, c'est une créature de Fouché, et Fouché va le protéger jusqu'à sa mort.
Est-ce que c'était un oratorien comme Fouché?
Non, pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui exerçait un métier assez simple, et puis bon, comme Chalier, bon, il profite de la Révolution et il se met à jouer un rôle à la fois politique et militaire, hein, puisque, comme je l'ai dit, il est nommé général dans le cadre de l'armée révolutionnaire. Et après, d'ailleurs, quand il sera protégé par Fouché, hein, je crois qu'il exercera des fonctions militaires en Europe. Il fait partie de ceux, hein, que Fouché protégera jusqu'au bout.
Est-ce qu'il fera carrière sous l'Empire?
Oui, en partie. Oui.
Ah,
oui. Ah oui, oui, oui.
S'il n'y a plus de questions,
je te remercie au nom de toute.